à voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Si Henri IV reste dans la mémoire des Français le bon roi à la personnalité truculente, souvenez-vous de la poule au pot, et opportuniste, souvenez-vous encore de Paris vaut bien une messe. Ce portrait en forme de caricature reste, vous en conviendrez, largement réducteur et tout à fait insuffisant. C'est pourquoi Canal Academy vous propose, grâce à cette émission en deux volets, une émission de la série « Les académiciens racontent l'histoire », de cerner au plus près le roi et l'homme qui a régné donc pendant 21 ans sur la France en lui donnant un nouvel élan. Comme le titre de cette série l'indique, « Les académiciens racontent l'histoire », nous avons tenté de saisir les divers aspects du roi Henri IV en compagnie d'académiciens historiens célèbres du passé, tels que Jules Michelet, André Mauroy, René de Chateaubriand et Victor Duruy. Des lectures d'extraits de leurs ouvrages historiques reconnus et réputés vont faire revivre donc la pensée, le travail de ces grands esprits, de ces académiciens qui ont œuvré à des siècles différents au sein de l'Institut de France. Canal Academy vous propose en effet ces quatre regards, ces quatre styles, ces quatre points de vue, quatre sensibilités différentes émanant de ces grands auteurs historiens sur la vie et l'œuvre politique d'Henri IV, assassiné en 1610, oui, il y a tout juste 400 ans. Nous allons donc poursuivre maintenant cette évocation d'Henri IV en compagnie des textes de Chateaubriand et de Victor Duruy. Avant de nous immerger dans la belle langue française de Chateaubriand, quelques rappels sur ce grand écrivain, poète, académicien tellement romantique. Canal Academy vous propose de découvrir maintenant le regard que le vicomte académicien François-René de Chateaubriand, né en 1768 à Saint-Malo, porta sur le roi Henri IV dans son ouvrage consacré à l'histoire de France. Chateaubriand, que sa famille par tradition destinait à la carrière de marin alors qu'il était par tempérament tenté bien davantage par la prêtrise ou encore par la poésie. À 18 ans, Chateaubriand prend un brevet de sous-lieutenant. Il est présenté au roi Louis XVI à Versailles, il fréquente les salons parisiens. À Paris, il assiste au premier bouleversement de la Révolution. D'abord séduit par les débats d'idées, il prendra vite en horreur les violences qu'elle engendre. En avril 1791, par goût de l'aventure, il s'embarque pour l'Amérique. Il y voyage quelques mois, il en rapporte de volumineuses notes qui allaient nourrir ses œuvres littéraires. Voici donc des extraits des textes que l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand, consacra au roi Henri IV.
Marguerite n'aimait point Henri IV, qu'elle trouvait sale. Elle recevait Champvallon dans un lit éclairé avec des flambeaux entre deux linceuls de taffetas noir. Elle avait écouté Monsieur de Mayenne, bon compagnon, gros et gras et voluptueux, comme elle, et ce grand dégoûté de vicomte de Turenne, et ce vieux ruffian de Pibrac dont elle montrait les lettres pour rire à Henri IV, et ce petit chicon de valet de Provence, date, qu'avec six aunes d'étoffe elle avait anobli dans Husson, et ce bec jaune de Bajaumont, dernier amant de la longue liste qu'avait commencé d'Entrague et qu'avait continué, avec les favoris déjà cités, le duc de Guise, Saint-Luc et Bussy.
Ta justice est pareille au monde.
Au milieu de ces débordements, il faut donner place à la rigide façon d'être des réformés et à la vie austère de ces magistrats catholiques, qui ressemblaient à des Romains du temps de Saint-Sinatus transportés à la cour des Lagabales. Duplessis Mornay était l'exemple du parti protestant. Sa vertu lui conférait le droit d'avertir Henri IV de ses faiblesses. Sur le champ de bataille de Coutras, au moment où l'action allait commencer, il représente au jeune roi de Navarre qu'il a porté le trouble dans une honnête famille par une liaison criminelle, qu'il doit à son armée la réparation publique de ce scandale et à Dieu, devant lequel il va peut-être paraître, l'humble aveu de sa faute. Henri se confesse au ministre Chandieu et dit au seigneur de sa cour qu'il en veut le détourner. On ne peut trop s'humilier devant Dieu, ni trop braver les hommes. Il tombe ensuite à genoux avec ses soldats protestants. Le pasteur prononce la prière. Joyeuse, à la tête de l'armée catholique, le voit et s'écrie « Le roi de Navarre a peur !»« Ne le prenez pas là, » répond Lavardin. « Il ne prie jamais sans qu'il soit résolu de vaincre ou de mourir. » Joyeuse perdit la bataille et la vie. Henri III étant mort, l'armée se divisa. Une partie des catholiques resta attachée à Henri IV, une autre, sous la conduite de Vitry et d'Épernon, l'abandonna. Henri IV, obligé de lever le siège de Paris, se retira à Dieppe pour recevoir des secours qu'il attendait d'Élisabeth. Il était alors dans cet état de dénuement qu'il peint à Sully. Mes chemises sont toutes déchirées, mon pourpoint troué au coude, et depuis 2 jours, je soupe et dîne chez les uns et chez les autres. Les membres de son conseil étaient d'avis qu'il s'embarqua pour l'Angleterre. Biron s'y opposa. « Sortir de France ? » s'écria-t-il en colère. « Seulement pour 24 heures, c'est s'en bannir pour jamais. » Combat d'Arc et du faubourg de Dieppe. Henri IV y reçut maint coup d'épée et en rendit autant. Il disait en frappant ce que disaient les rois très chrétiens en touchant les écrouelles. « Le roi te touche, Dieu te guérisse !» Le champ de bataille inspirait le Béarnais. Sa vaillance était son génie. À la terrible prise de Cahors, où il se battit 5 jours entiers dans les rues, blessé en divers endroits, conjuré par ses soldats de se retirer, « Ma retraite hors de cette ville, leur répondit-il, sans l'avoir assurée à mon parti, sera la retraite de ma vie hors de mon corps. » À Coutras, il dit aux officiers qui se trouvaient devant lui au moment de la charge, « À Cartier, ne m'offusquez pas, je veux paraître. » Il dit encore au prince de Condé et au comte de Soissons, « Vous êtes du sang de Bourbon. Vive Dieu, je vous ferai voir que je suis votre aîné. » Attaqué à la fois par le baron de Frins et par Château-Renaud, Frontenac abattit le premier d'un coup de sabre et Henri, saisissant le second au corps, lui crie « Rends-toi, Philistin !» Dans une chaude affaire qu'il eut près d'Yvetot avec les ducs de Parme et de Mayenne, il leur tua 3 000 hommes. Tout couvert de sang et de sueur après le combat, il disait au capitaine qui l'environnait « Vive Dieu ! Si je perds le royaume de France, je suis en possession de celui d'Yvetot. » À Ivry, le grand fait d'armes de sa vie, ses mots prirent le caractère élevé de sa gloire. On lui parlait de se ménager une retraite. « Point d'autre retraite, répondit-il brusquement, que le champ de bataille. » Schomberg lui demanda le paiement de ses troupes. « Jamais homme de cœur, s'écrie Henri, n'a demandé de l'argent la veille d'une bataille. » Le lendemain, se repentant de ce mot dur, « Monsieur de Schomberg, cette journée sera peut-être la dernière de ma vie, je ne veux emporter l'honneur d'un brave. Je déclare donc que je vous reconnais pour l'homme de bien et incapable de faire aucune lâcheté. Embrassez-moi. » Sire, repartit Schomberg, votre majesté me blessa l'autre jour, aujourd'hui elle me tue. Schomberg se fit tuer auprès du roi. Au moment d'aller à la charge, le Béarnais se tournant vers les siens. Gardez bien vos rangs! Si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ce panache blanc que vous voyez en mon armée vous en servira tant que j'aurai goutte de sang. Suivez-le, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la gloire. » L'officier qui portait l'étendard royal ayant reçu un coup de feu dans l'œil se retire de la mêlée. Les troupes royales commencent à fuir. Henri les arrête et leur crie « Tournez visage, sinon pour combattre, du moins pour me voir mourir !» Henri IV, vainqueur de tous ses ennemis, s'approcha de Paris dont il ferma les avenues. Ce siège est fameux par les dernières folies de la Sainte-Union. La satire Ménippée a décrit la grande procession. Les ingénieux auteurs ont seulement ajouté aux moines et aux clergés les principaux personnages de ce drame tragicomique. Les curés Hamilton, Boucher et Lincestre, un petit peu plus bizarrement armés, faisaient le premier rang. Et devant eux marchaient trois moinetons et novices, leurs robes troussées. Ayant chacun le casque en tête, dessous leur capuchon, une rondage pendue au col où étaient peintes les armoiries et devises des dix seigneurs. Maître Julien Pelletier, curé de Saint-Jacques, marchait à côté. Tantôt devant, tantôt derrière, habillé de violet en gendarme scolastique, la couronne et la barbe faites de frais, une brigandine sur le dos avec l'épée et le poignard, et une hallebarde sur l'épaule gauche en forme de sergent de bande qui suait, poussait et haletait pour mettre chacun en rang et ordonnance. Puis suivaient, de trois en trois, 50 ou 60 religieux, tant cordeliers que jacobins, carmes, capucins, minimes, bons hommes, feuillants et autres, tous couverts avec leurs capuchons et habits agrafés. Armés à l'antique catholique, sur le modèle des épîtres de saint Paul. Entre autres, il y avait 6 capucins, ayant chacun un morillon en tête et au-dessus une plume de coq. Revêtus de cottes de mailles, l'épée ceinte aux côtés par-dessus leurs habits, l'un portant une lance, l'autre une croix, l'un un épieu, l'autre une arquebuse et l'autre une arbalète, le tout rouillé par humilité catholique. Les autres, presque tous, avaient des piques qu'ils branlaient souvent par faute de meilleurs passe-temps. Hormis un feuillant boiteux qui se faisait faire place avec une épée à deux mains et une hache d'armes à sa ceinture, son bréviaire pendu par derrière et le faisait bon voir sur un pied faisant le moulinet devant les dames. Mais tout cela marchait en moult belles ordonnances catholiques, apostoliques et romaines et semblait les anciens crânequiniers de France. Ils voulurent en passant faire une salve ou escoupetterie, mais le légat leur défendit. Après ses beaux-pères marchaient les 4 mendiants qui avaient multiplié en plusieurs ordres, tant ecclésiastiques que séculiers, puis les 16 à 4, réduits au nombre des apôtres et habillés de même comme on les joue à la fête Dieu. Après ses beaux-pères marchaient les 4 mendiants qui avaient multiplié en plusieurs ordres, tant ecclésiastiques que séculiers, puis les 16, 4 à 4, réduits au nombre des apôtres et habillés de même comme on les joue à la fête Dieu. Après eux marchaient les prévôts des marchands et échevins, bigarrés de diverses couleurs. Puis la cour de parlement, telle qu'elle, les gardes italiennes, espagnoles et wallonnes de monsieur le lieutenant. Puis les 100 gentilshommes de frais gradués par la Sainte-Union et après eux, quelques vétérinaires de la confrérie de Saint-Éloi. Suivaient après monsieur de Lyon, tout doucement, le cardinal de Pellevée, tout bassement, et après eux, monsieur le légat, vrai miroir de parfaite beauté, et devant lui marchait le doyen de Sorbonne, avec la croix où pendaient les bulles du pouvoir. Item, venait madame de Nemours, représentant la reine-mère ou grand-mère du roi futur, suivait madame la douairière de Montpensier, avec son écharpe verte, fort sale d'usage, et madame la lieutenante de l'État et couronne de France, suivie de mesdames de Blain et de Bussy-Leclerc. Alors s'avançait et faisait voir monsieur le lieutenant, et devant lui 2 massiers fourrés d'hermine, et à ses flancs 2 vallons portant hoquetons noirs tout parsemés de croix de Lorraine rouge. Ces burlesques misères aidèrent quelque temps le peuple à supporter la faim qui bientôt se fit sentir dans toute son horreur. Après s'être nourri de tous les animaux, chats, chiens et autres, et des peaux de ces animaux, après avoir dévoré des enfants, on en vint à moudre des os de mort dont on fit de la poussière et non de la farine. Ce pain conservait sa vertu. Quiconque en mangeait, mourait. Madame de Montpensier refusa d'échanger avec des joyaux de la valeur de plus de 2000 écus un petit chien qu'elle se réservait comme sa dernière ressource. 30 000 personnes succombèrent. Les rues étaient jonchées de cadavres. Les demi-vivants se traînaient parmi. Des prostitutions impuissantes, payées de quelques aliments vils à des mains décharnées, avaient lieu dans ces cimetières sans fosse. La vie de l'homme rampait à peine ainsi, avec des couleuvres sur les corps gisants. Monsieur de Nemours, sortant de sa maison, pour aller visiter quelques postes vers les murailles de la ville, rencontra un homme qui, d'un air effaré, lui dit « Où allez-vous, monsieur le gouverneur? N'allez plus outre dans cette rue. J'en viens et j'ai trouvé une femme demi-morte ayant à son cou un serpent, entortillé, et autour d'elle plusieurs bêtes envenimées. Pendant ce temps, Henri IV laissait ses soldats monter au bout de leur pique des vivres aux Parisiens. Il faisait relâcher des villageois qui avaient amené des charrettes de pain à une poterne. Il leur distribuait quelque argent et leur disait « Allez en paix. Le Béarnais est pauvre. S'il avait davantage, il vous le donnerait. » Et le Béarnais négociait. Attendez le duc de Parme. Oubliez ses soucis avec l'abbesse de Montmartre. Commençait une passion nouvelle avec Gabriel d'Estrées, se déguisait en paysan pour l'aller voir à Queuvres au milieu de tous les périls. Henri IV se trouva dès sa naissance et par les hasards de sa vie à la tête de la Réformation et des idées nouvelles. Mais la Réformation était en minorité contre l'ancien culte et les vieilles idées. Les Français catholiques rejetaient un roi protestant malgré son titre héréditaire. Ils en avaient le droit, comme les Anglais protestants eurent le droit de repousser un roi catholique. La Ligue, coupable envers le dernier des Valois, était innocente envers le premier des Bourbons. À moins de soutenir que les nations ne sont aptes à maintenir le culte qu'elles ont choisi et les institutions qui leur conviennent. Le péril était imminent. Les États, illégalement convoqués sans doute, mais redoutables, car tout corps politique dans un moment de crise a une force prodigieuse. L'Espagne, appuyée de la cour de Rome et des préjugés populaires, était prêt, en s'alliant au prince Lorrain, à disposer du trône. L'héritier légitime ne se pouvait défendre qu'avec des soldats étrangers, triste ressource pour un roi national. Les protestants qui l'appuyaient étaient en petit nombre et plutôt inclinés à l'aristocratie qu'à la monarchie. Les catholiques, attachés à sa personne, ne le suivaient que parce qu'il avait promis de se faire instruire dans leur religion. Il ne restait donc évidemment à Henri IV qu'un seul parti à prendre, celui d'abjurer. Ce fut une affaire entre lui et sa conscience. S'il vit la vérité du côté où il voyait la couronne, il eut raison de changer d'hôtel. Il est fâcheux seulement qu'il écrive à Gabriel à propos de son abjuration « C'est dimanche que je ferai le saut périlleux. » On s'est fait une fausse idée de la manière dont les Bourbons parvinrent au trône. D'un côté, on a vu que les massacres de la Saint-Barthélemy, que les fureurs de la Ligue, que les intrigues de Catherine de Médicis, que les débauches de Henri III, que l'ambition des princes de Lorraine. De l'autre côté, on a aperçu que la bravoure, l'esprit et la loyauté de Henri IV. On a cru que tous les partis avaient été fidèles à leur doctrine, qu'ils avaient constamment suivi leurs drapeaux respectifs, que les services avaient été récompensés, les injures punies, qu'enfin, chacun avait été rétribué selon ses œuvres. Telle n'est point la vérité historique. Tout se passa comme de nos jours. On céda à des nécessités, à des intérêts créés par le temps. Le vainqueur d'Ivry ne monta point sur le trône botté et éperonné en sortant de la bataille. Il capitula avec ses ennemis et ses amis n'eurent souvent pour toute récompense que l'honneur d'avoir partagé sa mauvaise fortune. Brissac, La Châtre et Bois Dauphin, maréchaux de la Ligue, furent confirmés dans leur dignité. Ils avaient tous vendu quelque chose. La Verdun, Villars, Balagny, Villeroy jouirent de la faveur d'Henri IV. Par l'article 10 de l'édit de Folembray, les dettes mêmes du duc de Mayenne sont payées et déclarées dettes de la couronne. Pourtant, le Béarnais était ingrat et gascon, oubliant beaucoup et tenant peu. « Montez, dit la duchesse de Rohan dans son ingénieuse satire apologétique, montez les degrés, entrez jusque dans son antichambre, vous oirez les gentilshommes qui diront « J'ai mis ma vie tant de fois pour son service, je l'ai tant de temps suivi, j'ai été blessé, j'ai été prisonnier, j'y ai perdu mon fils, mon frère ou mon parent. Au partir de là, il ne me connaît plus, il me rabroue si je lui demande la moindre récompense. » Ses effets parlent et disent en bon langage. « Mes amis, offensez-moi, je vous aimerai. Servez-moi, je vous haïrai. » Henri laissa mourir de faim le fidèle bourgeois qui avait favorisé sa fuite lorsque lui, Henri, était à Paris, prisonnier de Charles IX. À la mort de Henri III, Henri IV avait dit à Armand de Gontaut, baron de Biron, « C'est à cette heure qu'il faut que vous mettiez la main droite à ma couronne. Venez-moi servir de père et d'ami contre ces gens qui n'aiment ni vous ni moi. » Henri aurait dû garder la mémoire de ses paroles. Il aurait dû se souvenir que Charles de Gontaut, fils d'Armand, avait été son compagnon d'armes, que sa tête avait été emportée d'un boulet de canon. Ce n'était pas au Béarnais à joindre la tête du fils avec celle du père. Mais la bravoure de Henri IV, son esprit, ses mots heureux et quelquefois magnanimes, son talent oratoire, ses lettres pleines d'originalité, de vivacité et de feu, ses malheurs, ses aventures, ses amours le feront éternellement vivre. Sa fin tragique n'a pas peu contribué à sa renommée. Disparaître à propos de la vie est une condition de la gloire. Henri IV était encore un fort bon administrateur. Il montra son habileté à faire vivre en paix des hommes qui se détestaient. Particulièrement ses ministres, hommes de capacité, mais antipathiques les uns aux autres et sortis de partis divers. Les Bourbons n'ont compté que 5 rois dans leur courte monarchie absolue. Sur ces 5 rois, ils ont 2 grands princes et 1 martyr. Ce sang n'était pas stérile. À compter depuis la conjuration d'Ambroise, 1560, jusqu'à la publication de l'édit de Nantes en 1599, s'écoulèrent 39 années de massacres, de guerres civiles et étrangères entremêlées de quelques moments de paix. C'est à peu près la période qu'a parcouru notre dernière révolution. Ce temps de la Saint-Barthélemy et de la Ligue est le temps de la terreur religieuse d'où sortit la monarchie absolue. Comme le despotisme militaire sorti de la terreur politique de 1793. Il ne coula guère moins de 100 Français dans les guerres et les massacres du XVIe siècle que dans les massacres et les guerres de la Révolution. Durant ces guerres de la Ligue, sont morts prématurément et avant le temps plus de 2 millions de personnes. Tant de morts violentes que de nécessité et pauvreté par famine et autrement. Un capital immense fut dissipé. Les dettes de l'État se trouvèrent montées sous Henri IV à 330 millions de la monnaie de ce temps, sans parler de toutes les autres sommes absorbées et non constituées en dettes publiques, comme on le va voir par les autorités suivantes. Le pauvre peuple avait été tellement pillé, vexé, saccagé, rançonné, subsidié sans aucune relâche ni moyen de respirer, qu'il ne lui restait plus aucune facilité de vivre, étant comme désespéré et résolu de quitter le pays de sa naissance pour aller vivre en terre étrangère. Dans les pays qu'ils occupaient, les Huguenots détruisirent les monuments catholiques et s'emparèrent des biens du clergé. Beaucoup de prêtres se marièrent et restèrent néanmoins catholiques. Leurs mariages furent sanctionnés par la cour de Rome et leurs enfants légitimés. La cour, de son côté, ne se fit faute des biens ecclésiastiques. La vente, saisie et jouissance des biens de l'Église par des laïcs était accompagnée de la saisie, jouissance et vente des biens des particuliers, comme dans la Révolution. Plusieurs édits et déclarations ordonnent la confiscation des biens des Huguenots. Le Parlement, en 1589, rendit un arrêt pour faire procéder à la vente des biens de ceux de la nouvelle opinion, afin qu'on ne soit pas privé du fruit et secours espéré des saisies et ventes des biens et héritages de ceux de la nouvelle opinion. Un règlement du duc de Mayenne, de la même année, exige le serment à l'union catholique par le clergé, la noblesse, le tiers-état, les habitants des villes et des campagnes, etc. Ce serment doit être prêté dans la quinzaine du jour de la publication du règlement. L'article 9 porte « Après la dite quinzaine passée, sera procédé à la saisie des biens, meubles et immeubles, de tous ceux qui se trouveront refusant faire le discernement, soit ecclésiastique, noble ou du tiers-état. Et si, dans un mois après la dite saisie, ils ne le voudraient faire, on aurait proposé excuse valable de leur absence et légitime empêchement, seront tenus et réputés pour ennemis de Dieu et de l'État, et passer outre à la vente des dits meubles, etc. » On voit que les massacres, les injustices, les spoliations ne sont pas comme on l'a cru particuliers à nos temps révolutionnaires. Les terroristes de la Saint-Barthélemy et de la Ligue étaient des aristocrates nobles, des rois, des princes, des gentilshommes. Charles IX, Henri III, le duc de Guise, Tavannes, Clermont, Coconnas, La Mole, Bussy-d'Amboise, Saint-Mégrin et tant d'autres. Non seulement ils lâchèrent les bourgeois de Paris sur les Huguenots, mais ils trempèrent eux-mêmes leurs mains dans le sang. La terreur de la Saint-Barthélemy et de la Ligue fut approuvée par la grande majorité de la nation. On regarda aussi cette terreur comme nécessaire. On ne trouve pas contre Charles IX, qui nous fait tant d'horreur aujourd'hui, un seul écrit de ses contemporains catholiques. Il est loué, au contraire, de presque tous les hommes de mérite de cette époque. Du Tillet, Brantôme, Ronsard, tandis qu'Henri III est accablé d'outrage. J'ai souvent cité les pamphlets de la Ligue parce qu'on y suit mieux le mouvement des opinions. C'est la première fois que la presse a joué un rôle important dans les troubles politiques. Par son moyen, la pensée était devenue, ainsi que de nos jours, un élément social. Un fait qui se mêlait aux autres faits et leur donnait une nouvelle vie. La plume était aussi active que l'épée. Comme chacun avait la liberté entière dans son parti et n'était proscrit que dans l'autre, il y avait réellement liberté de la presse. Les imaginations audacieuses de Rabelais, le traité de la servitude volontaire de la Boétie, les essais de Montaigne, la sagesse de Charron, la République de Bodin, les écrits polémiques, le traité où Mariana va jusqu'à défendre le régicide, prouvent qu'on osa tout examiner. Comme la succession à la couronne était contestée, les catholiques, en se divisant à ce sujet, examinèrent hardiment les principes de la monarchie. Et les protestants rêvèrent la république aristocratique. La liberté politique et la liberté religieuse eurent un moment pleine licence, en s'appuyant à la liberté de la presse, leur compagne, ou plutôt leur mère. Mais cet horizon qui s'ouvrit un moment dans l'esprit humain se referma tout à coup. La réaction qui suit l'action, quand l'action n'est pas consommée, précipita la France sous le joug. En résumé, les guerres civiles religieuses du XVIe siècle, qui ont duré 39 ans, ont engendré les massacres de la Saint-Barthélemy, ont versé le sang de plus de 2 millions de Français, ont dévoré près de 3 milliards de notre monnaie actuelle, ont produit la saisie et la vente des biens de l'Église et des particuliers, ont fait périr deux rois de mort violente, Henri III et Henri IV, et commencé le procès criminel du premier de ces rois. La vérité religieuse, quand elle est faussée, ne se livre pas à moins d'excès que la vérité politique lorsqu'elle a dépassé le but.
Après ces textes signés Chateaubriand, notre grand écrivain, historien, académicien et poète, nous allons maintenant, grâce à Canal Académie, tourner notre attention vers des textes émanant de Victor Jean Duruy. Victor Jean Duruy est né le 11 septembre 1811 à Paris. Il est mort le 25 novembre 1894, également à Paris. C'est un homme politique et un historien français. Né dans une famille d'ouvriers depuis 7 générations, Victor Duruy était destiné à suivre l'exemple de son père comme contremaître dans la manufacture des Gobelins. C'est ainsi qu'il travailla d'abord à l'atelier des apprentis. Mais un ami de son père, remarquant son application au travail, le jeune Duruy va suivre des études classiques au collège Rollin grâce à une bourse d'études obtenue. Il est admis à l'école normale supérieure et reçu à l'agrégation d'histoire et de géographie et nommé par la suite professeur au collège de Reims à l'âge de 22 ans, puis au lycée Henri IV à Paris. Sous la monarchie de Juillet, Duruy est l'auteur de nombreux manuels scolaires d'histoire destinés aux classes élémentaires. Il va diriger la collection de l'Histoire universelle. Enseigner à Paris était pour Duruy un grand honneur, augmenté du fait qu'il avait pour élève deux des fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumale et le duc de Montpensier. Duruy va être nommé en 1851 inspecteur de l'Académie de Paris, puis docteur ès lettres et professeur à l'école normale en 1853. La publication de nombreux ouvrages sur l'Antiquité font de lui un spécialiste de renommée internationale sur cette période. Napoléon III va alors le solliciter pour l'aider dans la rédaction de son ouvrage « Histoire de Jules César ». L'empereur Napoléon III le remerciera en le nommant inspecteur général en 61, puis professeur à l'école polytechnique. Il devient ensuite ministre de l'instruction publique et occupe cette fonction pendant 7 années. Il va contribuer notamment à développer l'enseignement primaire, obliger les communes de plus de 500 habitants à créer une école des filles. Il va encourager la gratuité de l'éducation en incitant les communes pauvres à la décréter avec garantie de subvention de l'État. Puis il s'attaque au domaine universitaire avec le décret du 31 juillet 1868 qui fonde l'école pratique des hautes études afin, disait-il, de développer la recherche et de former des savants. Victor Duruy abandonne ses fonctions ministérielles, va siéger au Sénat jusqu'à la fin de l'Empire. Après cela, elle se consacre à ses premières amours, l'histoire antique, avec la rédaction de l'Histoire des Grecs, qu'il achève de publier en 1873. Il publie l'Histoire des Romains en 1889. Ses derniers travaux lui permettent d'entrer à l'Institut au titre de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres en 1873, de l'Académie des Sciences Morales et Politiques en 1879. Il est ensuite élu à l'Académie française en 1884. Jules Ferry fait appel à lui au moment de l'élaboration de sa réforme du Conseil supérieur de l'instruction publique. Duruy apporte également son aide au nouveau ministre dans l'élaboration de la loi du 21 décembre 1880 relative à l'enseignement secondaire des jeunes filles. Il est également à l'origine de la loi du 28 juillet 1882 qui crée le baccalauréat de l'enseignement secondaire. Nous écoutons l'histoire d'Henri IV, vue et commentée par Victor Duruy.
L'assassinat du dernier des Valois, Henri III, mit la douleur et le trouble dans le camp de Saint-Cloud, la joie et la confiance dans Paris. Au camp, les catholiques s'éloignaient déjà des protestants. On voyait les premiers, dit un témoin oculaire, comme gens forcenés, enfonçant leurs chapeaux, les jetant par terre, fermant les poings, complotant, se touchant la main, formant des vœux et des promesses dont on avait pour conclusion plutôt mourir de 1000 morts. Dans la ville, les duchesses de Montpensier et de Nemours parcouraient les rues dans leurs carrosses, criant dans tous les carrefours « Bonne nouvelle, mes amis, bonne nouvelle! Le tyran est mort, il n'y a plus de Henri de Valois en France !» On faisait des feux de joie, on célébrait dans la chair le martyr du bienheureux Jacques Clément. On l'invoquait comme un saint. Sa vieille mère fut amenée à Paris et montrée au peuple comme une merveille. « Vous êtes le roi des braves », avait dit à Henri un des seigneurs catholiques, « et ne serez abandonné que des poltrons ». Malgré cette loyale parole, beaucoup de catholiques s'éloignèrent. Pour retenir les autres, Henri s'engagea solennellement, dans une assemblée de principaux seigneurs, à maintenir dans son royaume la religion catholique jusqu'à la convocation d'un concile national ou général qui réglerait la question religieuse et à conserver chacun dans ses droits et offices à garantir aux calvinistes la liberté de leur culte dans une ville par bailliage. L'Assemblée alors le reconnut comme roi de France, sous le nom d'Henri IV, selon la loi fondamentale du royaume. L'acte fut dressé, signé de tous les assistants et enregistré par le Parlement de Tours. À Paris, au contraire de ce qui se passait à Saint-Cloud, on était d'accord sur la religion, mais non sur les personnes. Décidé à repousser du trône un hérétique, les ligueurs hésitaient entre le jeune duc de Guise et son oncle, le duc de Mayenne. Le premier était, depuis la mort de son père, prisonnier des royalistes et par conséquent un peu oublié. Le second, politique habile, manquait de tout ce qu'il faut à un chef populaire, audace, éclat, activité infatigable et décision prompte. Il y avait d'autres prétendants encore. Le duc de Lorraine, beau-frère des trois derniers Valois, le duc de Savoie, fils d'une sœur de Henri II, et le roi d'Espagne, qui parlait des droits de sa fille, née d'une fille de Henri II, sœur par conséquent des trois derniers Valois, et comptait bien se saisir de la couronne au milieu de l'anarchie qu'il avait déchaînée. Mayenne, tout puissant dans Paris, le lendemain de la mort d'Henri III, aurait pu brusquer la fortune. Il ne l'osa. Et le 5 août, il fit proclamer roi le cardinal de Bourbon, se contentant de prendre pour lui-même la lieutenance générale. Cette nomination ne résolvait rien, et en reconnaissant le droit de la famille de Bourbon, Mayenne montrait que le roi légitime était Henri IV. La France s'était partagée, et non seulement la France, mais presque chaque province. À côté d'une ville qui tenait pour la Ligue, une autre tenait pour le roi. Il y avait le Parlement de Paris et celui de Tours. Un sixième de la France était pour Henri IV. Le reste n'était pas tout entier pour la Ligue. Plusieurs villes et provinces restaient neutres. Quelques gouverneurs ou seigneurs puissants, d'Épernon, d'Anville en Languedoc, Ornano en Dauphiné, attendaient les événements. Il fallait faire reconnaître le vrai roi à ses actes. Henri IV envoya Longueville en Picardie, Daumont en Champagne, pour lui en ramener ce qu'il pourrait y lever de troupes et d'argent. Et il se dirigea lui-même vers la Normandie. Senlis, Compiègne, Gournay, Gisors reçurent garnison royale et livrèrent leurs recettes dont l'armée avait grand besoin. Une tentative contre Rouen échoua, mais Henri, tournant tout à coup sur Dieppe, y fut reçu à bras ouverts. C'était une précieuse acquisition qu'il le mettait en communication avec l'Angleterre, dont il attendait des secours. La grande Élisabeth comprenait que le roi de Navarre combattait autant pour elle-même que pour lui. Le dernier jour de la France, disait-elle, sera la veille du dernier jour de l'Angleterre. Le gouverneur de Caen vint à Dieppe faire au roi hommage de la moitié de la Normandie. À Paris, on commençait à murmurer contre les lenteurs de Mayenne. Philippe II, Sixte Quint, lui avait envoyé de l'argent pour faire des recrues en Allemagne.
À bas l'ennemi !
Il se décida enfin à sortir de la ville avec 25 000 hommes, en rallia 8 000 en route et se dirigea sur Dieppe, promettant de ramener le Béarnais captif ou de le jeter à la mer. Henri avait moins de 10 000 hommes et fort peu d'argent. Les membres du conseil étaient d'avis qu'il s'embarquât pour l'Angleterre. Le maréchal de Biron s'y opposa. Henri IV était de cet avis. Il s'empara du Tréport et s'établit fortement autour de Dieppe. Son artillerie était insuffisante. Il suppléa en montant ses plus petits canons sur des affûts à roues auxquels il attela plusieurs chevaux. Et il fit ainsi le premier usage de l'artillerie légère. La grosse armée de Mayenne échoua pendant 3 semaines d'attaques consécutives contre ses habiles dispositions et plus encore contre la valeur d'Henri et de ses troupes. Elle ne laissa pas un point de la ville où des retranchements sans tenter l'assaut ou l'escalade et fut partout repoussée. Henri se trouvait à son tour à la tête de 25 000 hommes. Il emporta Étampes, Châteaudun, Vendôme et de Tours décida Le Mans, Alençon, Angers, Laval à le reconnaître. En quelques semaines, toute la Normandie de la Seine à la Vire furent soumises de gré ou de force. La nouvelle de ses succès entraînait les neutres. 2 cardinaux étaient venus le recevoir à Tours. Le Parlement de Rennes fit sa soumission avec une partie de la Bretagne. Ornano et Lesdiguières en Dauphiné, La Valette en Provence, Danville en Languedoc se déclarèrent pour lui. Au dehors, la République de Venise le reconnut comme roi légitime. Déjà même Sixte Quint se laissait ébranler par les raisons que lui avaient fait porter les catholiques qui suivaient le Béarnais. Le roi livra bataille dans la plaine de Saint-André, près d'Ivry. Les ligueurs avaient 15 000 à 16 000 hommes, dont 400 à cheval, de sorte que leur front se montrait comme une épaisse forêt de lances. Les royalistes avaient 8 000 fantassins et 3 000 cavaliers, armés seulement d'épées et de pistolets. On parlait à Henri d'assurer sa retraite en cas de revers. « Point d'autre retraite, dit-il, que le champ de bataille. » Et il ajouta. « Compagnons, gardez bien vos rangs. Si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ce panache blanc que vous voyez en mon armée, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la gloire. » Tous les escadrons s'ébranlèrent à la fois. Le roi chargea les lanciers français et wallons. Il passa avec les siens, sous leurs lourdes et longues lances, les attaqua vigoureusement corps à corps, d'estoc et de taille, et les mit en fuite. Les chevaux légers royalistes cédaient devant un escadron de wallons. Henri court à eux. « Tournez visage, leur fit-il. Et si vous ne voulez pas combattre, regardez-moi mourir. » Au bout de 2 heures, toute l'armée de la Ligue était en fuite. La victoire gagnée, le Béarnais se rappela qu'il était roi. « Quartier aux Français, cria-t-il. Main basse sur les étrangers. » 5 pièces de canon, 80 enseignes d'infanterie, 20 cornettes de cavalerie furent les trophées des vainqueurs. La route de Paris leur était ouverte, Henri les y mena. Il y avait dans la ville peu de munitions, peu de vivres, et les murailles se trouvaient en mauvais état. Les Parisiens suppléèrent à tout par leur exaltation religieuse. Le moine Crestin avait été chargé d'annoncer au peuple la nouvelle de la défaite d'Ivry. Il prit pour texte de son serment ces paroles de l'Écriture. « Je châtie ce que j'aime. » On fit rendre par la Sorbonne un décret qui déclarait « coupable de péché mortel quiconque parlerait de traiter avec le Bourbon » et qui promettait à ses ennemis la palme du martyr. 30 000 hommes s'enrôlèrent, on fondit les cloches pour en faire des canons. Une étrange procession parcourut toute la ville. Les principaux héros de la Ligue, Rose Boucher, l'Incestre, la barbe et la tête rasée, un hausse col par-dessus le camail et les rochers, l'épée au côté et la pertuisane au bras, ouvraient la marche. Suivaient 4 par 4, au nombre de 1300, les cordeliers jacobins, carmes, capucins, feuillant en ordre de bataille, la hache ou l'arquebuse sur l'épaule, dans un accoutrement moitié religieux et moitié militaire, qui avait quelque chose de burlesque et de terrible à la fois. L'église militante, chantant des hymnes entremêlés de salves, de mousqueterie, défila devant un légat qui la bénit. Henri IV ne se flatta point d'emporter d'assaut une ville ainsi défendue. Mais il comptait sur la famine et coupa tous les arrivages, espérant ainsi abattre les Parisiens. Il ne fit que les élever, selon d'Aubigné, un haut degré de vengeance qui sentait le juste et le glorieux. On supporta la famine aussi bien que la guerre. Après avoir diminué chaque jour la ration de pain qu'on distribuait au peuple, le corps de ville ne donna plus rien. Chacun eut à se pourvoir. On abattit les chevaux, les ânes, les mulets qui survivaient encore. Tout ce qui avait vie, même des animaux immondes, fut traqué, dévoré. La duchesse de Montpensier refusa de céder un petit chien qu'elle gardait, disait-elle, comme dernière ressource pour sa propre vie. Quelques-uns pilèrent des ossements de mort pour en faire une sorte de pâte et moururent de cet affreux aliment. Chose horrible, les hommes d'armes commençaient à faire la chasse aux petits-enfants. Une mère mangea le sien. Il y a bien souvent la légende à côté de l'histoire. C'est à la légende qu'appartient l'Henri IV, laissant entrer des vivres dans Paris qui l'assiège. Celui de l'histoire tense vivement ses serviteurs d'eau, de Givry et d'autres qui se relâchaient de la sévérité ordinaire en pareille occurrence en faisant passer quelques secours aux amis qu'ils avaient dans la place. Si sa bonté ne va pas jusqu'à leur laisser défaire d'une main ce qu'il fait de l'autre, elle l'attendrait du moins au spectacle de tant de maux. « J'aimerais quasi mieux, disait-il, n'avoir point de Paris que de l'avoir ruiné par la mort de tant de personnes. » Et un jour qu'il rencontra des paysans qu'on menait pendre pour avoir été surpris introduisant une charrette de pain par une poterne, Henri IV les fit relâcher, leur distribua quelque argent et leur dit « Le Béarnais est pauvre. S'il avait davantage, il vous donnerait plus. » Il était évident pour tous que la guerre n'amènerait pas de solution, la France pourrait s'y abîmer, mais un parti ne détruirait pas l'autre. L'idée d'une transaction, d'un compromis, revenait donc dans les esprits. Chaque faction, jusque-là, avait repoussé les états généraux, comptant davantage sur sa force et craignant de remettre ses destinées au scrutin d'une assemblée. Maintenant, leurs noms revenaient dans bien des bouches. Les écrits, les pamphlets des deux partis avaient tellement bouleversé les vieilles opinions reçues que le peuple ne savait auquel entendre et demandait qu'on laissât parler la nation même. Les ligueurs Boucher et Rose remettaient l'élection royale aux états généraux et exaltaient les droits du peuple pour les soumettre à l'Église. Les protestants, devenus les défenseurs de l'autorité royale, tenaient pour l'hérédité et opposaient à l'autorité pontificale, comme aux prétentions populaires, le droit divin des rois. Les États, depuis longtemps convoqués, mais toujours retardés par la guerre, s'ouvrirent enfin à Paris le 15 janvier 1598. Il ne vint qu'environ 130 députés, la plupart du tiers-État. Le roi d'Espagne comptait sur eux. On voyait, nuit et jour, les agents des prétendants à la couronne qui allaient visiter les députés et briguer leur suffrage. Aux arguments tirés de la religion, Philippe II enjoignait d'une autre sorte. Il s'était dit qu'il serait plus facile d'acheter la France que de la conquérir, et il n'épargnait pas l'argent. Si les historiens d'Espagne ont bien compté, c'est 30 millions de ducats, quelque chose comme 5 ou 600 millions de francs, que ses visées sur la France lui coûtèrent. Le Béarnais, lui, n'avait dépensé que de l'héroïsme, autant, il est vrai, qu'il en eût fallu, en d'autres circonstances, pour gagner un royaume. Mais le culte qu'il professait formait un obstacle invincible. Le chef des protestants ne pouvait être le roi des catholiques. Depuis bien longtemps, Henri le sentait, et comme il n'avait jamais été attaché par des liens bien forts au calvinisme, il songeait à les rompre pour terminer enfin une guerre atroce et sans cela éternelle. Entre l'or du roi d'Espagne et le sacrifice que l'héritier légitime s'apprêtait à faire pour cesser d'être le roi d'un parti et devenir le roi de la France, Mayenne avait peu de choses à offrir. Il ne désespéra pourtant pas de réussir. En opposant l'un à l'autre, Philippe II et Henri IV, l'étranger et l'hérétique, et en tâchant de passer entre les deux. Dans la première séance générale des États, on pressa davantage l'ambassadeur. On lui demanda quel époux le roi Philippe II destinait à sa fille. « L'archiduc Ernest d'Autriche, » répondit-il. Ce fut une explosion de murmures, car quelques-uns avaient compté au moins sur le jeune duc de Guise. Ainsi, c'était à un prince étranger, à une princesse étrangère, qu'on livrait la France. C'était une maison d'Autriche que nos rois avaient combattue pendant 50 ans, que la Ligue amenait au Louvre. La lumière se fit. Déjà le 8 avril, un prédicateur avait dit à l'église Saint-Jacques la Boucherie « Il n'y a plus de religion parmi nous, tout n'est qu'ambition, les beaux états qu'on tient, c'est la cour du roi Péto où chacun veut être le maître. Il n'est aucun de nos gouverneurs qui n'aspire à être au roi et c'est à qui emportera le morceau. » Telle fut bientôt l'opinion de tous. En 1593, elle eut plus tard son expression dans un merveilleux pamphlet. La satire Ménipée, œuvre de quelques bourgeois parisiens qui achevèrent de tuer la Ligue par le ridicule. Le Catholicon d'Espagne, première partie de la satire, démasqua l'ambition que Philippe II cachait sous les dehors du champion du catholicisme. Chacun des grands personnages qui avaient joué leur rôle dans l'Union vint étaler sa folle ambition ou sa honteuse avidité. Ô Paris qui n'est plus Paris, mais une spélinque, une caverne de bêtes farouches, une citadelle d'Espagnols, wallons et napolitains, un asile de voleurs, meurtriers et assassinateurs. Te voilà au fer, te voilà en l'Inquisition d'Espagne, plus intolérable mille fois et plus dur à supporter aux esprits nés libres et francs que les plus cruels morts. La raison commençait à surnager par-dessus l'écume des passions à moitié apaisées. Pendant que les États continuaient les longues disputes qui cachaient mal leur indécision, quelques magistrats du Parlement prirent courage. Voilà l'état où nous sommes réduits, s'écria l'un d'eux, Duvert. 16 coquins ont fait vente au roi d'Espagne de la couronne de France. Non, jamais peut-être il ne souhait dire que si licencieusement, si effrontément, on se joua de la fortune d'un si grand et si puissant royaume, si publiquement, on trafiqua d'une telle couronne, si impudemment on mit vos vies, vos biens, votre honneur, votre liberté à l'enchère, comme l'on fait aujourd'hui. Et en quel lieu? Au cœur de la France. Sur la proposition du courageux magistrat, le Parlement rendit un arrêt par lequel il ordonna que remontrance serait faite à monsieur le lieutenant général à ce qu'aucun traité ne se fît pour transférer la couronne en la main de princes étrangers. C'était le premier acte de bon sens et de patriotisme qui eût été fait depuis longtemps. Henri IV fit le second. L'ambassadeur d'Espagne, ayant reconnu qu'en demandant trop, il avait tout compromis, essayait de revenir sur ses pas et proposait au nom de Philippe II le mariage de l'infante avec le duc de Guise. Mais il était trop tard. Le peuple était maintenant affamé de paix. D'autant plus qu'Henri IV, à ce moment, se décidait à franchir le dernier pas. Il en coûtait beaucoup au fils de Jeanne d'Albret, à l'élève de Coligny, de rompre avec ces huguenots qu'il avait apporté sur leurs épaules de deçà la rivière de Loire. Mais c'était la vie même des plus sages d'entre eux. Le 23 juillet, après un débat de quelques heures avec les docteurs catholiques réunis à Mantes, Henri se déclara convaincu. Et malgré le fameux billet à Gabriel, « C'est après-demain que je fais le saut périlleux », il l'était en vérité. Non qu'il eût bien discuté les dogmes, ce n'était point affaire à lui. Le surlendemain, le 25, il dit adieu en pleurant au ministre de la religion qu'il abandonnait et escorté des princes, des grands officiers de la couronne et d'une nombreuse noblesse, il se dirigea vers l'église de Saint-Denis. Le bruit en était venu jusqu'à Paris. Malgré les ordres de Mayenne et du corps de ville, une foule de Parisiens se rendirent sur son passage et l'accueillirent au cri de « Vive le roi !». Arrivé aux portes de la basilique, il frappa. L'archevêque de Bourges parut. « Qui êtes-vous ? » lui demanda-t-il. « Je suis le roi. Que demandez-vous ? » À être reçu au giron de l'église catholique, apostolique et romaine. Il s'agenouilla et fit sa profession de foi. « Je jure, dit-il, devant la face du Dieu Tout-Puissant, de vivre et de mourir en la religion catholique, de la protéger et défendre envers et contre tous, au péril de mon sang et de ma vie, renonçant à toute hérésie contraire à Icel. » Quelques prédicateurs de la Ligue essayèrent vainement de présenter cet acte comme une hypocrisie. « On l'a vu !» disait l'un d'eux. « En une même heure, Huguenot est catholique, et puis le voilà à la messe, et sonne le tambourin. » Le plus grand nombre regarda cette conversion comme le gage d'une patriotique réconciliation. Les États furent tués du coup. Ils déclarèrent qu'ils n'avaient point pouvoir pour régler la succession au trône, renouvelèrent le serment d'union, ordonnèrent la publication du Concile de Trente pour faire quelque chose et se dispersèrent au milieu de l'indifférence générale. Le sacre, qui eut lieu dans la magnifique cathédrale de Chartres, 27 février 1594, augmenta ses dispositions. Là où l'entraînement populaire ne suffisait pas, Henri aida au dénouement par d'habiles négociations. Ainsi, il acheta Paris à Brissac, pour un bâton de maréchal, les gouvernements de Mantes et de Corbeil, pour 200 000 écus. La garnison espagnole, au nombre de 3 000 hommes, se cantonna dans le faubourg Saint-Antoine, espérant d'abord y faire résistance. Quand elle sut le roi au Louvre, et toute la ville satisfaite ou tranquille, elle se résigna à sortir avec les honneurs de la guerre. L'ambassadeur, duc de Feria, passant avec elle sous les fenêtres du palais, ne fit au roi qu'un maigre salut. « Messieurs, dit Henri avec son ironie habituelle, « recommandez-moi à votre maître, mais n'y revenez plus. » Le roi avait la capitale où le parlement épuré et restauré abolit les arrêts rendus contre lui, où la Sorbonne reconstituait le reconnu pour vrai et légitime roi, mais il n'avait pas toute la France. Les Espagnols y étaient encore, et les chefs ligueurs comptaient ne sortir de cette longue tourmente que les mains bien garnies. Henri marcha d'abord contre les Espagnols et les Lorrains, fortement établis dans quelques places de la frontière du Nord, surtout à Laon. Un de ses partisans les plus dévoués, dont le rôle grandissait chaque jour, Maximilien de Béthune, baron de Rosny, plus tard duc de Sully, fut chargé des traités et eut ordre de n'y point user de façon ni remise, Henri voulant à tout prix marier son royaume à la paix. Villars-Branca livra Rouen et la Normandie pour la charge d'amiral et 60 000 livres de pension. Le fils du Balafré, Guise, céda ses places en Champagne pour 24 000 livres de pension et le gouvernement de la Provence. Le duc de Lorraine fit sa paix pour 900 000 écus et le gouvernement de Toul et de Verdun. On félicitait un jour Henri IV de ce que ses loyaux sujets lui avaient rendu son royaume. « Dites vendu !» s'écria-t-il. Sully estime qu'il lui en coûta 32 millions. Pour mieux finir la guerre civile, Henri commença une guerre nationale contre l'étranger. l'Espagne seule perpétuait la résistance des derniers ligueurs, en retardait l'absolution pontificale qui manquait encore à Henri IV. Peut-être même ne fut-elle pas étrangère à une tentative d'assassinat faite contre le roi. Un jeune homme, Jean Châtel, lui porta un coup de couteau à la gorge. Henri, en se baissant pour embrasser un seigneur, évita le coup et ne fut frappé qu'à la lèvre. Châtel avait étudié chez les jésuites et était en relation avec plusieurs d'entre eux. Ses pères s'étaient montrés dans la ligue les plus ardents fauteurs des prétentions espagnoles. Un d'eux fut exécuté après Châtel. Un arrêt du Parlement bannit les autres du royaume le 8 janvier 1595, comme perturbateur du repos public et corrupteur de la jeunesse. Le 17 du même mois, Henri déclara solennellement la guerre à Philippe II. Henri IV obtint l'absolution depuis longtemps demandée au pape, Philippe II menaça en vain. Clément VII, dit un cardinal, a perdu l'Angleterre par trop de vivacité, que Clément VIII ne perde pas la France par trop de lenteur. Les deux ambassadeurs du roi, Duperron et Dossa, ayant abjuré l'hérésie au nom d'Henri et promis la publication des décrets du Concile de Trente, excepté ceux qui pourraient exciter quelques troubles, le grand pénitencier toucha de sa baguette la tête des ambassadeurs agenouillés et le pape prononça la formule d'absolution au milieu des acclamations du peuple. Le roi, du reste, remplissait partout et minutieusement les devoirs d'un bon catholique. À la messe, il édifiait les fidèles au plus long sermon et il ne montrait pas d'ennui. Et le jour de Pâques, il touchait les écrouelles. On eût pu trouver un prince plus orthodoxe. C'était l'événement qu'attendait Mayenne pour faire sa soumission. Il rendit ses dernières places et reçut en échange le gouvernement de la Bourgogne, 3 villes de sûreté et 335 000 écus. La première entrevue des deux anciens ennemis eut lieu au château de Monceau, dans l'abri. Henri embrassa Mayenne, le prit par le bras et le fit promener à grands pas par les jardins. Mayenne, très gros, très pesant, suait et soufflait, était rendu. Henri s'arrêta enfin et lui tendant la main, « Touchez-la, mon cousin. Voilà le seul mal que vous recevrez jamais de moi. » Ce fut en effet la seule vengeance qu'il tira du chef de la Ligue. Mayenne, au reste, le servit depuis ce jour avec fidélité et sauva peut-être devant Amiens l'armée royale, surprise par ses anciens amis, les Espagnols. En 1598, Henri IV avait chassé l'étranger, rapproché les catholiques et les protestants, mis enfin la paix au-dedans et sur les frontières. Il fallait maintenant guérir la France de tous les coups qu'elle avait reçus. « Je n'ai quasi pas un cheval sur lequel je puisse combattre », écrivait Henri en 1596. « Mes pourpoints sont troués au coude et ma marmite est souvent renversée. Le pays ressemblait à son roi. » Un contemporain estimait, dès 1580, que 800 000 personnes avaient déjà péri par la guerre et les massacres, que 9 villes avaient été rasées, 250 villages brûlés, 128 000 maisons détruites. Et depuis cette époque qui précède la Ligue, combien de ruines nouvelles ! Les ateliers sans travail, le commerce interrompu, l'agriculture désolée, partout le brigandage. Voilà d'où il fallait qu'Henri IV tirât la France. Henri avait déjà trouvé l'homme qui devait l'aider dans cette œuvre, plus difficile que celle des champs de bataille, un homme de ferme bon sens, d'esprit clair et juste, cœur intrépide. Caractère de fer, le protestant Maximilien de Béthune, plus tard duc de Sully. Il s'attacha au roi de Navarre, le suivit dans toutes ses aventures et ses batailles, se montrant aussi brave que Pazin, souvent blessé à Ivry par exemple, d'où on l'emportait mourant quand le roi le rencontra et l'embrassa des deux bras, comme brave soldat vrai et franc chevalier. La puissance de la maison d'Autriche, maîtresse de tant de pays et si fortement appuyée sur l'Europe catholique, était l'objet continuel des méditations d'Henri IV. La détruire était son rêve. Mais ce rêve s'ennoblissait par le but de l'établissement en Europe d'un système politique qui mit sous la garantie de tous les États l'indépendance des religions et celle des peuples. Le règne du droit aurait remplacé celui de la force. Ce projet était l'application d'un grand principe qu'on ne soupçonnait pas alors et que nous venons seulement de retrouver, le respect des nationalités. En preuve du désintéressement de ses vues, Henri, dans ce grand remaniement de l'Europe, se proposait de ne rien demander pour la France. Rien du moins qu'il ne parut légitime de lui accorder. « Je veux bien, disait-il, que la langue espagnole demeure à l'espagnol, l'allemande à l'allemand, mais toute la française doit être à moi. » Il n'espérait sans doute pas accomplir toutes ces choses, mais pour en exécuter une partie, il comptait sur l'alliance de l'Angleterre, dont la reine Élisabeth vécut jusqu'à sa mort en 1603, dans la meilleure intelligence avec la France. Les alliances de Henri IV avec les protestants, les maures et les turcs alarmaient les catholiques. En vain, il s'était efforcé de conserver l'amitié du pape, dont il avait obtenu son divorce avec Marguerite de Valois, pour épouser en 1600 la nièce même du pontife, Marie de Médicis, triste femme qui ne lui apportait ni cœur, ni beauté, ni esprit, mais la plus grosse dot qu'on pût alors trouver. Henri IV avait, en 1603, laissé rentrer les jésuites en France, pris son confesseur dans leur compagnie, bâtit pour eux le collège de la Flèche et donnait à leur maître les droits d'enseigner. Il n'en était pas moins, aux yeux d'un grand nombre, l'ennemi de la religion. C'est ce qui fut persuadé à un fanatique, François Ravaillac. Henri IV était inquiet et triste. Des bruits de complot lui revenaient sans cesse. Déjà 19 tentatives d'assassinat avaient échoué. Il avait sujet d'en craindre une 20e. Avant de partir pour la guerre, il céda aux instances de la reine qui voulait être sacrée. « Ah, mon ami, disait-il à Sully, que ce sacre me déplaît. Ah, maudit sacre, tu seras cause de ma mort. Je mourrai dans cette ville et n'en sortirai jamais. Ils me tueront, car je vois bien qu'ils n'ont d'autre remède en leur danger que ma mort. » Il revint pourtant de cette cérémonie, mais ses noires idées ne le quittèrent point. « Vous ne me connaissez pas, dit-il à quelques seigneurs, mais je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez alors ce que je valais, la différence qu'il y a de moi aux autres hommes. » Ravaillac ne chercha pas à fuir. On eut grand-peine à empêcher le peuple de le mettre en pièces. Enfermé près de là, dans l'hôtel de Retz, on parut pendant 9 jours l'y oublier, de sorte que beaucoup de gens purent le voir et lui parler. Le Parlement mena ensuite rondement le procès. Ravaillac fut condamné, le 27 mai, à être tenaillé aux mamelles et aux membres avec versement dans les plaies de plomb fondu et d'huile bouillante, à avoir le poing droit brûlé au feu de soufre, pour être ensuite écartelé et ses restes réduits en cendres et jetés au vent. L'écartèlement, dit le procès-verbal, dura une grande heure. Le peuple furieux s'était de lui-même mis aux cordes. Les juges lui trouvèrent pas ou n'osèrent point lui trouver de complice.
Vous venez donc d'écouter des lectures de textes extraites de l'œuvre de Victor Duruy. Vous avez pu entendre notamment la voix, l'interprétation de la comédienne Corinne Maison dans la lecture des textes signés Chateaubriand. Vous avez pu d'autre part écouter la voix et l'interprétation du comédien Thibaut Chabran dans les textes de Victor Duruy. Illustration sonore, mixage de ces deux textes sont signés WeWalk, réalisation Virginia Crespo. Nous vous rappelons que cette série Les Académiciens racontent l'histoire consacrée au roi Henri IV comporte un premier volet consacré aux textes signés Jules Michelet et André Mauroy. Canal Académie vous remercie de votre écoute. Ces deux émissions consacrées aux textes de Michelet, Mauroy, Chateaubriand, Duruy sont maintenant téléchargeables sur le site de Canal Académie. Nous vous remercions de votre écoute.